Chapitre 4. Avec le jour, les quartiers s'animent. Les chiffonniers sont déjà à leur tâche, pestant contre les boîtes poubelles qui leur volent leur gagne-pain. Les balayeurs achèvent de nettoyer les rues, les étals se déploient. Porteurs d'eau, rémouleurs, vitriers, rempailleurs et autres artisans entament leur tournée en proposant leur service à tue-tête. Vincent prend la direction du versant nord de la butte, abrité de la capitale et de ses révolutions. En descendant la rue de l'Abreuvoir, le vacarme du chantier s'estompe, les chants des oiseaux reprennent le dessus. Il marche au milieu du chemin pavé, sans se préoccuper de devoir s'écarter, car les attelages ne montent pas par ce flanc-là, les pentes sont trop raides, et même ceux qui ont une adresse officielle n'ont pas les moyens de se faire livrer quoi que ce soit. Voilà quelques mois, une automobile est venue pour un défi, mais elle n'a même pas réussi à grimper jusqu'au premier quart de la rue du Mont-Cenis. Aucun habitant n'en avait jamais vu jusqu'alors, et le bruit démoniaque du moteur à combustion interne en a terrifié plus d'un. Sans hésiter, Vincent s'engage déjà dans un autre décor. À l'ombre des ruines du château des Brouillards, charbonniers et autres ferrailleurs s'entassent dans un enchevêtrement de masures et de cabanons fumants. Un dédale anarchique envahit de végétation surnommée le maquis. Ceux qui n'y habitent pas n'y pénètrent jamais. C'est là que beaucoup d'expulsés se sont réfugiés. On ne s'y promène pas. On tente d'y tenir bon, escomptant l'arrivée d'une saison plus clémente. Pas de chaussée aux larges trottoirs, pas d'éclairage au crépuscule, pas d'eau dans les maisons, mais des chemins transformés en torrents de boue après chaque averse. Les artistes sans le sou y affluent de plus en plus. Ils discutent et débattent au milieu des moins fortunés. Eux sont riches de leurs rêves et nourris de leurs ambitions, même si cela ne vaut pas un vrai repas chaud. Les pleurs des enfants s'associent aux odeurs de soupe recuite et de lessive. Même lavé, le linge étendu à l'air libre est loin d'être net. Parfois, on entend un chanteur des rues qui, avant d'aller se donner en spectacle sur des avenues honorables, se chauffe la voix et répète les chansons à la mode du fond de son abri. Des gens, au destin tordu, voire brisé, cohabitent, soudés tant bien que mal, par une vie qui n'épargne personne. Vincent se sent pourtant plus à l'aise ici que dans les beaux quartiers. Dès qu'il dépasse le maquis, il se montre toujours plus prudent. Régulièrement, il s'assure de ne pas être suivi. Son repère n'est plus très loin, et il tient à ce que l'adresse en reste aussi secrète que les passages qu'il conçoit. Longeant une palissade couverte d'affiches vantant les nouveaux bals des environs, Vincent se glisse soudain entre deux planches, souple comme un félin. Il traverse un ancien entrepôt à grains et à farine abandonné pour rejoindre discrètement l'arrière d'une maison qui donne sur la rue Caulaincourt. Bien qu'il en soit le locataire patenté, il n'y rentre jamais par l'avant. Le négoce désert, situé juste derrière l'habitation, offre une voie d'accès bien plus sûre à l'abri des regards. En coupant par les anciennes réserves, dont il ne subsiste que quelques rangements vides et couverts d'une fine couche de vieille farine poussiéreuse, il débouche dans un petit jardin sauvage sur lequel donne la porte de service de sa propre habitation. Pour l'ouvrir, une clé ne suffit pas. Il a pris soin d'en protéger l'accès par une batterie de pièges et de systèmes d'alerte. Après s'être essuyé les doigts pour éviter de laisser des traces, il tourne une des moulures en fonte de l'encadrement, ce qui désarme la charge prête à s'abattre sur un visiteur importun, tout en faisant tinter la cloche qui avertit les siens de son approche. Il pénètre ensuite dans la grande maison vide. Ce qui était autrefois une pension de famille est désormais un endroit sombre et crasseux, sans aucune comparaison avec les lieux fastueux où Vincent exerce le plus souvent. Mais cela n'a aucune importance, car, hormis pour dormir dans l'une des chambres des étages, jamais la même par prudence, ce n'est pas ici que lui et ses compagnons passent leur temps. Le cœur de leur repère se situe en dessous. Dans la cuisine délaissée, Vincent gagne la cheminée. Il glisse sa main dans le trou laissé sur le côté par une brique manquante. Du bout des doigts, il pousse le déclencheur qui actionne le mécanisme d'ouverture. Un déclic, et le mur du fond de l'âtre s'écarte, dévoilant un petit escalier qui s'enfonce sous la bâtisse. Lorsque Vincent et son jeune frère Pierre ont cherché des locaux plus grands pour développer leur activité très particulière, ce n'est pas tant la taille de la maison qui les a séduits que les vastes caves voûtées, vestiges d'une dépendance monastique de l'abbaye royale dont seule la partie en surface avait été modifiée. C'est là qu'ils décidèrent d'établir leur atelier, peu avant que Conrad, le menuisier allemand, et Eustasio, l'artiste italien, ne les rejoignent, complétant ainsi l'équipe. Leur art ne nécessite pas d'avoir pignon sur rue. Bien au contraire. Vincent dévale l'escalier.